Voici une question dont la réponse est un puissant avertissement. Qu'est-ce qui attire le châtiment de Dieu sur les humains? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse à laquelle nous devons tous prêter attention aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de bonnes questions aujourd'hui. Ce sont peut-être vos questions. Par exemple, qu'est-ce qui arrive à ceux qui refusent d'écouter Dieu? Est-ce que le cœur humain est enclin à se tourner vers les idoles? Qu'est-ce qui attire le châtiment de Dieu sur les humains? Les tribus d'Israël sont-elles perdues ou sont-elles simplement dispersées? Est-ce que Dieu avertit toujours avant de châtier? Quel est le plus grand péché de l'humanité? Est-ce que Dieu traite les individus de la même manière qu'il traite les nations quand ils refusent d'obéir? Restez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous enseigner la parole de Dieu. Il a ouvert sa Bible là où sont toutes nos réponses. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs à bien recevoir ce qu'il va nous dire par la bouche de son serviteur. Prions. Oui, Seigneur, tu vas nous parler encore aujourd'hui. Et on veut que tu nous disposes, que tu disposes nos cœurs, afin que ta parole fasse effet dans nos cœurs, dans nos vies quotidiennes. Enseigne-nous, Seigneur, on a besoin de ta parole. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons examiné plusieurs rois d'Israël et de Juda. Tous les rois d'Israël entraînèrent la nation dans le péché, même si Dieu a fait preuve de bienveillance à l'égard du roi Joachaz. Dieu se servit d'Azaël et de son fils Ben-Hadad, deux rois syriens, pour châtier son peuple. Mais il détermina jusqu'où purent aller les Syriens, car il se rappelait de sa promesse faite à l'égard d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons vu que si l'infidélité d'Israël et de Juda a eu ses conséquences, Dieu n'agit pas avec une colère aveugle. Il fut aussi mentionné que notre manque de foi peut nous paralyser. De plus, nous devons nous méfier de notre orgueil qui peut nous pousser à s'accaparer de fonctions réservées à d'autres. Azaria, roi de Juda, a voulu exercer des fonctions sacerdotales, ce qui était réservé qu'aux sacrificateurs. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 16 du deuxième livre des rois. Si vous aimez l'histoire, vous savourerez ce chapitre. Si vous appréciez les leçons spirituelles, vous en découvrirez quelques-unes qui sont très pratiques. Toutes ces choses sont arrivées pour notre instruction, nous dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, dans ses lettres adressées aux Corinthiens. Chers amis, débutons notre lecture. Deux Rois, chapitre 16, versets 2 et 3. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Pekach régna 20 ans avant d'être assassiné. Achaz devint roi la 17e année du règne de Pekach. Il fut un très mauvais roi. Verset 4. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Achaz suivit les voies des rois d'Israël et il pratiqua l'idolâtrie. Il sacrifia même son fils à une idole démoniaque. Le roi Achaz ne pouvait descendre plus bas spirituellement. Il offrit des sacrifices aux idoles et ouvrit la porte à l'idolâtrie. Verset 5. Alors, Retsin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Ce sont les humains qui refusent d'écouter Dieu. Dieu parle encore, mais que faisons-nous de sa parole? Au chapitre 7 du livre d'Ésaïe, ce sujet est traité amplement. C'est dans ce chapitre qu'Ésaïe prophétise que le Seigneur Jésus naîtra d'une vierge. Le prophète s'adresse à Achaz, qui refuse d'écouter ce que dit Dieu. Ésaïe l'exhorte à faire confiance à Dieu, mais Achaz se tourne vers l'Assyrie pour obtenir du secours. Ceci attire l'attention de l'Assyrie, qui un jour amènera le royaume d'Israël en captivité. Verset 6. Dans ce même temps, Retsin, roi de Syrie, fit rentrer Elat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Elat les Juifs, et les Syriens vinrent à Elat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour signifie le moment de la rédaction de ce texte, pas jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'au jour où ce livre fut écrit. C'est la première fois que le mot « juif » est employé dans la Bible. Certains disent que le terme s'applique seulement aux membres de la tribu de Juda, mais notez qu'ici, il s'applique à des gens du royaume d'Israël qui vivent près de la frontière syrienne. Le terme « juif » fut appliqué aux 12 tribus. Versets 7 et 8. Achaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Verset 9 nous dit « Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Retsin. » Achaz acheta les services des Assyriens. Ils aidèrent Achaz en s'emparant de Damas, la capitale de la Syrie. Verset 10. Le roi Achaz se rendit à Damas au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Chers amis, le cœur humain est prompt à se virer vers les idoles. Achaz fit construire un autel semblable dans le temple à Jérusalem. Pendant ce temps, le prophète Ésaïe l'avertissait et prophétisait contre lui. « Restons attentifs à la parole de Dieu. Cherchons cette parole de Dieu intensément. » Verset 17. « Et le roi Achaz brisa les panneaux des basses et en ôta les bassins qui étaient dessus. » Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Achaz n'eut aucun respect pour le temple du vrai Dieu vivant. Versets 18 à 20. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Achaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Achaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Achaz dépouilla la maison de Dieu de ses ornements. Le chapitre se termine avec le décès d'Achaz et annonce que son fils Ézéchias monta sur le trône après lui. C'est étonnant de voir qu'un homme idolâtre comme Achaz eut un fils fidèle à Dieu comme Ézéchias. La désobéissance, l'incrédulité et la rébellion attirent le châtiment de Dieu. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et je vais vous en faire la lecture à l'instant même de ces quelques textes. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ce texte nous rappelle l'œuvre de Jésus lorsqu'il est venu ici-bas sur cette terre. Considérez son œuvre, considérez l'opposition reçue de la part des pécheurs. Et le verset 5, toujours du chapitre 12, l'Épître aux Hébreux précise, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Maintenant, nous passons au chapitre 17. Nous y voyons les raisons pour lesquelles Dieu a permis que le royaume du Nord aille en captivité. Premièrement, il a désobéi à Dieu. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies, et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères, et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Deux Rois, chapitre 17, verset 13. Deuxièmement, il n'a pas cru Dieu, mais ils n'écoutèrent point, et ils roidirent leur coup, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Deux Rois, chapitre 17, verset 14. Troisièmement, il a défié Dieu en refusant d'observer les années sabbatiques pendant 490 ans. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Deux Rois, chapitre 17, verset 15. Afin que s'accomplît la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Deux Chroniques, chapitre 36, verset 21. Le peuple de Dieu n'a pas été attentif à la parole de Dieu. Nous aussi, nous avons cet avertissement dans le Nouveau Testament. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et chapitre 12, les versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Soyons attentifs à la parole de Dieu. L'histoire de cette nation est aussi l'histoire de chaque individu. Au chapitre 17, nous voyons la fin du royaume d'Israël qui va en captivité en Assyrie. Débutons et poursuivons notre lecture de Deux Rois, chapitre 17, versets 1 et 2. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Osée ne fut pas aussi méchant qu'Akab et Jézabel, mais il le fut amplement. Versets 3 à 5. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à Sô, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. Nous faisons la connaissance de Salmanazar, roi d'Assyrie. Il captura le royaume du Nord et imposa un tribut à Osée. Celui-ci conspira contre le roi d'Assyrie et cessa de payer le tribut. Salmanazar assiégea donc Samarie, la ville construite par Omri, le père d'Akab. Akab s'y était construit un palais. Verset 6. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Aucune des dix tribus n'est perdue, chers amis. Certains affirment que les dix tribus sont perdues. Ils croient que les tribus se sont retrouvées en Grande-Bretagne pour ensuite se répandre aux États-Unis. C'est une belle théorie qui flatte l'orgueil de ceux qui voudraient faire croire qu'ils font partie de ces dix tribus. Cependant, le concept que les tribus sont perdues est une invention purement humaine. L'idée n'est pas appuyée par la parole de Dieu. Par exemple, dans le Nouveau Testament, Jacques écrivit « Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut !» Jacques, chapitre 1, verset 1. Jacques ne pensait pas que les tribus étaient perdues. Ceux qui croient que les tribus sont perdues pensent que cela fut fait lors de la captivité assyrienne. Lorsque les Juifs revinrent dans leur pays, des gens de toutes les tribus revinrent. Seulement un faible pourcentage des Juifs revint de la captivité. Sur les quelques millions dispersés, seulement environ 65 000 revinrent en Palestine. Versets 7 et 8. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Le Seigneur fut très patient avec Israël. Il leur a donné plusieurs occasions de revenir à lui au cours des deux siècles qui ont suivi le schisme du royaume. Mais Israël ne l'a jamais fait. Elle n'est jamais revenue. Le peuple retournait continuellement vers l'idolâtrie. La Bible est claire sur un point. Le royaume est allé en captivité parce qu'il s'est tourné vers d'autres dieux. Il a délaissé son Dieu. Versets 9 à 12. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » Dieu avait jeté les païens hors du territoire à cause de leur immoralité et de leur idolâtrie. Pensez-vous que Dieu aurait permis à son peuple de demeurer dans le pays alors qu'il a fait les mêmes abominations? Jamais. Il a permis à l'Assyrie d'amener son peuple en captivité. C'est le résultat de leur idolâtrie. Verset 13. L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Oui, chers amis, Dieu avertit avant de châtier. Dieu avait envoyé de nombreux prophètes avertir son peuple qui habitait le royaume du Nord. Akija, Élie, Michée, Élisée, Jonas, Amos et Osée. Dieu suscita aussi des prophètes pour le royaume du Sud. Samaïja, Joël, Ésaïe et Michée. Plus tard, il enverra Nahum, Habacuc, Sophonie et Jérémie. Tous ces prophètes ont averti les deux royaumes des conséquences qui s'ensuivraient, s'ils ne revenaient pas à Dieu et s'ils ne délaissaient pas leur mauvaise voie, ils en subiraient les conséquences. Verset 14. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur coup, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Leur péché fondamental fut l'incrédulité, le fait de ne pas croire. le grand péché de l'humanité est le refus de croire Dieu, d'accepter son message envers l'humanité. Dieu n'a plus de place dans nos écoles. Nos politiciens ne tiennent plus compte de Dieu en formulant des lois, et même des églises n'écoutent plus Dieu. Chers amis, je crains que nous n'échapperons pas au jugement. Verset 15. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Le royaume d'Israël alla en captivité. Qu'en fut-il du royaume de Juda? Verset 19. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. Juda n'a rien appris des événements qui se sont produits en Israël. Versets 20 et 21. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés. Il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Jéroboam avait fabriqué deux veaux d'or pour que le peuple n'aille plus adorer à Jérusalem. Versets 22 et 23. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été emmené captif loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie amena des colons dans le territoire de la Samarie pour remplacer les populations amenées en captivité. À cette époque, les conquérants dispersaient les peuples conquis pour les affaiblir et les empêcher de se révolter. Les descendants des colons devinrent les Samaritains du Nouveau Testament. Nous voyons donc l'origine de la Samarie et des Samaritains, versets 26 à 29. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres, qui avait été emmené captif de Samarie, vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Le royaume du Nord n'existe plus. Le pays est habité par un mélange de nombreux peuples et il y eut de nombreux mariages entre ces peuples. Les 10 tribus ne formeront plus jamais un royaume. Elles sont dispersées, mais elles ne sont pas perdues. Voilà les conséquences du péché, chers amis. Le péché est grave aux yeux de l'Éternel. Il doit le punir. Il aime le pécheur, mais doit punir le péché. Et c'est ce qu'il fit par la venue de son Fils Jésus. Qu'en est-il de vous, chers amis? Écoutez-vous la voix de Dieu? Ou la fuyez-vous? Chers amis, prochaine émission, 2 Rois, chapitre 18.
Merci, Régent. J'ai bien aimé les questions que tu as posées à la fin du message. Tu as dit, « Qu'en est-il de nous? Écoutons-nous la voix de Dieu? » Et tu as ajouté, « Nous serons sans excuse car la Bible est disponible dans notre beau pays et nous avons la liberté de la lire. » Je pense qu'on est porté à prendre pour acquis cette liberté qu'on a de lire la Bible. Et non seulement de la lire, mais de l'entendre prêcher, de la méditer, de la mettre en pratique et de la présenter à ceux qui ne connaissent pas encore ce bel évangile. C'est curieux, la nature humaine. Je sais qu'il y a des gens dans des pays communistes qui doivent se cacher pour faire toutes ces choses et qui le font toutefois avec beaucoup plus de zèle que nous. Écoutons-nous la voix de Dieu. Personnellement, quand je lis la Bible, Je prie toujours avant et je demande à Dieu de parler à mon cœur, de me montrer quelle est l'application qu'il veut pour ma vie dans les versets que je parcours. Je lui demande de disposer mon cœur parce que parfois, je suis fatiguée ou j'ai plein de choses dans la tête qui pourraient m'empêcher de comprendre ce qu'il veut me dire. Parfois, en lisant, Dieu m'encourage par un verset. D'autres fois, il me reprend. Et à d'autres moments, il m'invite à me reposer en lui. Mais Dieu a toujours quelque chose à me dire. J'aimerais être toujours attentive, mais il m'arrive d'être trop préoccupée et de tourner en rond jusqu'à ce que je le réalise, jusqu'à ce que je le confesse à Dieu qui est fidèle et juste pour me pardonner. Et il me dit par sa parole des choses, comme dans l'Évangile de Matthieu au 6e chapitre, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Aussi, il m'encourage à prier sans douter, à lui exposer tous mes besoins. Mon ami, est-ce que Dieu te parle? Si tu es un enfant de Dieu, il te parle sûrement par sa parole, dans la Bible, ou par un autre de ses enfants, ou par des événements, ou même par des individus qui ne le connaissent même pas. Mais si tu ne connais pas Dieu, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, sache que Dieu te parle en ce moment. Il le fait par ma petite voix rauque, mais il le fait quand même. Dans le livre de l'Apocalypse, au 3e chapitre, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, peut-être que tu es seul en ce moment. Peut-être que tu es entouré de gens, mais que tu te sens quand même seul. Jésus aimerait te dire ce qu'il a dit à ses disciples avant de monter au ciel après être ressuscité des morts. Tu peux le lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, verset 20. Il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus veut aussi être avec toi tous les jours. Mais tu dois ouvrir la porte de ton cœur. Tu dois avouer que tu es un pécheur perdu, que tu es incapable de te sauver toi-même. Jésus a payé la dette de tes péchés en mourant sur la croix. Il veut te pardonner, te sauver, te donner la vie éternelle. Avant de remonter au ciel, il a dit une autre chose à ses disciples. Il a dit au verset 15-16 du 16e chapitre de l'Évangile de Marc, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et cette bonne nouvelle est rendue à toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire? Viens à Jésus maintenant. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Repens-toi, change de direction concernant le péché. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle, et c'est certain qu'il va le faire. »
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels, ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui. Toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qu'il va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Bonne fin de semaine et à lundi.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.